Chapitre 5. Le mari et la femme. Les complices eurent un haut le corps comme secoué par un choc électrique. Bourneuf se précipita. « Hein, que dis-tu ? » ?»« Ben, je dis 4 millions, ce qui fait 1 million pour chacun de vous. »« Voyons quoi, tu es bien sûr 4 millions ?»« Hein, 4 millions ?» Le chiffre était tellement énorme et la proposition si inattendue, que les complices éprouvèrent ce que Patrice Belval éprouvait de son côté. Ils crurent à un piège, et Bourneuf ne put s'empêcher de dire « Oh, en effet, l'offre dépasse nos prévisions. Aussi, je me demande pourquoi tu en arrives là. Tu te serais contenté de moi ?»« Oui, » dit Bourneuf, « franchement. Par malheur, je puis faire moi. » Pour échapper à la mort, j'ai qu'un moyen, c'est d'ouvrir mon coffre. Or, mon coffre contient 4 paquets de 1000 billets. Bourneuf n'en revenait pas, et il se méfiait de plus en plus. Et qui t'assure qu'après avoir pris les 4 millions, nous n'exigerons pas davantage ? Exiger quoi ? Le secret de l'emplacement ? Oui. Mais non, puisque vous savez que j'aime autant mourir. Les 4 millions, c'est le maximum. Les veux-tu ? Bon, je réclame en échange aucune promesse, aucun serment. Certain d'avance qu'une fois les poches pleines, vous n'aurez plus qu'une idée, c'est de filer, sans vous embarrasser d'un assassinat qui pourrait vous perdre. L'argument était si péremptoire que Bourneuf ne discuta plus. Le coffre est dans cette pièce ? Oui, entre la première et la seconde fenêtre, derrière mon portrait. Bourneuf décrocha le tableau et dit « Bon, je vois rien. Si, le coffre est délimité par les moulures même du petit panneau central. Au milieu, tu vois, il y a une rosace. Oh, non, pas en bois, mais en fer. Il y en a 4 autres aux 4 coins du panneau. Ces 4-là se tournent vers la droite par crans successifs et suivant un mot qui est le chiffre de la serrure, le mot « Cora ». Ah, les 4 premières lettres de Coralie, fit Bourneuf, qui exécutait les prescriptions des Sarès. Non, dit celui-ci, mais les 4 premières lettres du mot Coran, tu y es ? Au bout d'un instant, Bourneuf répondit. Je suis, où est la clé ? Il n'y a pas de clé. La 5e lettre du mot laine. Et la lettre de la rosa centrale, ok ? Bourneuf tourna cette 5e rosa, et aussitôt un déclic se produisit. « Mais t'as plus qu'à tirer, » ordonna Sarès. « Bien, le coffre est pas profond, il est creusé dans une des pierres de la façade. Allonge là-bas, tu trouveras 4 portefeuilles. » En vérité, à ce moment, Patrice Belval s'attendait à ce qu'un événement insolite interrompit les recherches de Bourneuf et le précipita dans quelques gouffres subitement entr'ouverts par les maléfices des Sarès. Et les 3 complices devaient avoir cette appréhension désagréable, car ils étaient livides et lui-même, Bourneuf, semblait n'agir qu'avec précaution et défiance. Enfin, il se retourna et revint s'asseoir auprès des Sarès. Il avait entre les mains un paquet de 4 portefeuilles attachés ensemble par une sangle de toile et qui étaient courts mais d'une grosseur extrême. Il ouvrit l'un d'eux après avoir défait la boucle de la sangle. Ses genoux sur lesquels il avait déposé le précieux fardeau, ses genoux tremblaient et lorsqu'il eut saisi à l'intérieur d'une des poches une liasse énorme de billets, on eût dit que ses mains étaient celles d'un vieillard qui grelotte de fièvre. Il murmura « Des billets de 1000 ? Oui, des paquets de billets de 1000 !» Brutalement, comme des gens prêts à se battre, chacun des complices empoigna un portefeuille, fouilla dedans et marmotta « Mais 10 paquets, oui, le compte y est, 10 paquets de billets de 1000 !» Et aussitôt l'un d'eux s'écria d'une voix étranglée « Allons-nous-en ! Allons-nous-en ! » Une peur subite les affolait. Ils ne pouvaient imaginer qu'Essarès leur eût livré une pareille fortune sans avoir un plan qui lui permît de la reprendre avant qu'ils fussent sortis de cette pièce. C'était là pour eux une certitude. Le plafond allait s'écrouler sur eux, les murs allaient se rejoindre et les étouffer, tout en épargnant leur incompréhensible adversaire. Patrice Belval, lui, ne doutait pas non plus. Le cataclysme était imminent, la revanche immédiate de Sarès inévitable. Un homme comme lui, un lutteur aussi fort que celui-là, paraissait l'être, n'abandonne pas aussi facilement une somme de 4 millions s'il n'a pas une idée de derrière la tête. Patrice se sentait oppressé, haletant. Depuis le début des scènes tragiques auxquelles il assistait, il n'avait pas encore frissonné d'une émotion plus violente, et il constata que le visage de Maman Coralie exprimait la même intense anxiété. Bourneuf, cependant, recouvra un peu de sang-froid, et, retenant ses compagnons, il leur dit « Bon, pas de bêtises, il serait capable, avec le vieux Siméon, de se détacher et de courir après nous. » Tous quatre, se servant d'une seule main, car de l'autre ils se cramponnaient à leur portefeuille, tous quatre, ils fixèrent au fauteuil le bras de Sarès, tandis que celui-ci maugréait « Imbécile, vous étiez venu avec l'intention de me voler un secret dont vous connaissez l'importance inouïe, et vous perdez l'esprit pour une misère de 4 millions tout de même. Le colonel n'avait plus d'estomac. » On le baïonna de nouveau, et Bourneuf lui asséna sur la tête un coup de poing formidable qui l'étourdit. « Comme cela, notre retraite est assurée, » dit Bourneuf. Un de ses compagnons demanda. « Et le colonel, nous le laissons ? Pourquoi pas ?» Mais la solution dut lui paraître mauvaise, car il reprit. « Après tout, non, notre intérêt n'est pas de compromettre davantage et ça reste. Notre intérêt à tous est de disparaître le plus vite possible. Et ça reste comme nous, avant que cette damnée lettre du colonel arrive à la préfecture, c'est-à-dire, je suppose, avant midi. Et alors ? Mais alors, chargeons-le dans l'auto et on le déposera n'importe où. La police se débrouillera. Et ses papiers ? Ben, nous allons le fouiller en cours de route. Allez, aidez-moi. » Ils bandèrent la blessure pour que le sang ne coulât plus, puis ils soulevèrent le cadavre, chacun le prenant par un membre, et ils sortirent sans qu'aucun d'eux eût lâché une seconde son portefeuille. Patrice les entendit qui traversaient en toute hâte une autre pièce et ensuite qui piétinaient les dalles sonores d'un vestibule. « C'est maintenant, se dit-il, Sarès ou Siméon vont presser un bouton et les coquins seront bouclés. » Sarès ne bougea pas. Siméon ne bougea pas. Le capitaine entendit tous les bruits de départ, le claquement de la porte cochère, la mise en marche du moteur et enfin le ronflement de l'auto qui s'éloignait. Et ce fut tout. Rien ne s'était produit. Les complices s'enfuyaient avec les 4 millions. Un long silence suivit, durant lequel l'angoisse de Patrice persista. Il ne pensait pas que le drame eût atteint sa dernière phase, et il avait si peur des choses imprévues qui pouvaient encore survenir qu'il voulut signaler sa présence à Coralie. Une circonstance nouvelle l'en empêcha, Coralie s'était levée. Le visage de la jeune femme n'offrait plus la même expression d'effarement et d'horreur, mais peut-être Patrice fut-il plus effrayé de l'avoir soudain animée d'une énergie mauvaise qui donnait aux yeux un éclat inaccoutumé et crispait les sourcils et les lèvres. Il comprit que Maman Coralie se disposait à agir. Dans quel sens était-ce là le dénouement du drame? Elle se dirigea vers le coin où était appliqué de son côté l'un des deux escaliers tournants et descendit lentement mais sans essayer d'assourdir le bruit de ses pas. Inévitablement, son mari l'entendait. Dans la glace, d'ailleurs, Patrice vit qu'il dressait la tête et qu'il la suivait des yeux. En bas, elle s'arrêta. Il n'y avait point d'indécision dans son attitude. Son plan devait être très net et elle ne réfléchissait qu'au meilleur moyen de l'exécuter. Ah, se dit Patrice, tout frémissant, mais que faites-vous là, madame maman Coralie? Il sursauta. La direction qu'avait prise le regard de la jeune femme, en même temps que la fixité étrange de ce regard, lui révélait sa pensée secrète. Coralie avait aperçu le poignard échappé aux mains du colonel et tombé à terre. Pas une seconde, Patrice ne douta qu'elle ne voulût saisir ce poignard dans une autre intention que de frapper son mari. La volonté du meurtre était inscrite sur sa face livide, et de telle façon que, avant même qu'elle fît un seul geste, un soubresaut de terreur secouait sa race, et qu'il chercha, par un effort de tous ses muscles, à briser les liens qui l'entravaient. Elle s'avança, s'arrêta de nouveau, et d'un mouvement brusque ramassa le poignard. Presque aussitôt, elle fit encore deux pas, et à ce moment, elle se trouvait à la hauteur et à droite du fauteuil où Sarès était couché. Il n'eut qu'à tourner un peu la tête pour la voir, et il s'écoula, oh, une minute épouvantable. Le mari et la femme se regardaient. Le bouillonnement d'idées, de peur, de haine, de passions désordonnées et contraires qui agitaient le cerveau de ces deux êtres, dont l'un allait tuer et dont l'autre allait mourir, se répercutait dans l'esprit de Patrice Belval et dans la profondeur de sa conscience. Que devait-il faire? Quelle part devait-il prendre au drame qui se jouait en face de lui? Devait-il intervenir, empêcher Coralie de commettre l'acte irréparable, ou bien devait-il le commettre lui-même en cassant d'une balle de son revolver la tête de l'homme? Mais, pour dire la vérité, depuis le début, il y avait en Patrice Belval un sentiment qui se mêlait à tous les autres, le dominait peu à peu et rendait illusoire toute lutte intérieure. Un sentiment de curiosité poussé jusqu'à l'exaspération. Non point la curiosité banale de connaître les dessous d'une affaire ténébreuse, mais celle plus haute de connaître l'âme mystérieuse d'une femme qu'il aimait, qui était emportée par le tourbillon des événements et qui, soudain, redevenant maîtresse d'elle-même, prenait en toute liberté, avec un calme impressionnant, la plus terrifiante des résolutions. Et alors, d'autres questions s'imposaient à lui. Cette résolution, pourquoi la prenait-elle? Était-ce une vengeance, un châtiment, l'assouvissement d'une haine? Patrice Belval demeura immobile. Coralie leva le bras. Devant elle, son mari ne tentait même plus ces mouvements de désespoir qui indiquent l'effort suprême. Il n'y avait dans ses yeux ni prière ni menace. Il était résigné, il attendait. Non loin d'eux, le vieux Sibéon, toujours ficelé, se dressait à demi sur ses coudes et les contemplait éperdument. Coralie leva le bras encore. Tout son être se haussait et se grandissait dans un élan invisible où toutes ses forces accouraient au service de sa volonté. Elle était sur le point de frapper. Son regard choisissait la place où elle frapperait. Pourtant, ce regard devenait moins dur et moins sombre. Il sembla même à Patrice qu'il y flottait une certaine hésitation et que Coralie retrouvait non point sa douceur habituelle, mais un peu de sa grâce féminine. « Ah, maman Coralie, se dit Patrice, te voilà revenue. Oh, je te reconnais. Quel que soit le droit que tu te croyais de tuer cet homme, tu ne tueras pas. Bon, j'aime mieux ça. » Lentement, le bras de la jeune femme retomba le long de son corps. Les traits se détendirent. Patrice devina le soulagement immense qu'elle éprouvait à échapper aux étreintes de l'idée fixe qui la contraignait au meurtre. Elle examina son poignard avec étonnement, comme si elle sortait d'un cauchemar affreux. Puis, se penchant sur son mari, elle se mit à couper ses liens. Elle fit cela avec une répugnance visible, évitant pour ainsi dire de le toucher et fuyant son regard. Une à une, les cordes furent tranchées, et Sarès était libre. Ce qui se passa alors fut la chose la plus déconcertante. Sans un mot de remerciement pour sa femme, et sans un mot de colère non plus contre elle, cet homme qui venait de subir un supplice cruel et que la souffrance brûlait encore, cet homme se précipita, titubant et les pieds nus, vers un appareil téléphonique posé sur une table et que des fils reliaient à un poste fixé à la muraille. On lui dit à un homme affamé qui aperçoit un morceau de pain et qui s'en empare avidement. C'est le salut, le retour à la vie. Tout pantelant, Sarès décrocha le récepteur et cria. Centrale, 39-40. Puis aussitôt il se tourna vers sa femme. Va-t'en ! Elle parut ne pas entendre. Elle s'était inclinée vers le vieux Sibéon et le délivrait également. Au téléphone, Sarès s'impatientait. Allô, mademoiselle, c'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui et tout de suite. Le 39-40, tout de suite. Et s'adressant d'accord à Ali, il répéta d'un ton impérieux, va-t'en. Elle fit signe qu'elle ne s'en irait pas et que, au contraire, elle voulait écouter. Il lui montra le poing et redit, va-t'en, va-t'en. Je t'ordonne de t'en aller, toi aussi, va-t'en, Siméon. Le vieux Siméon se leva et s'avança vers Sarès. On lui dit qu'il voulait parler et sans doute protester. Mais son geste demeurait indécis et après un mouvement de réflexion, il se dirigea vers la porte sans avoir prononcé un seul mot et sortit. « Va-t'en, va-t'en !» reprit Sarès en menaçant sa femme de toute son attitude. Mais Coralie se rapprocha de lui et se croisa les bras avec une obstination où il y avait du défi. Au même instant, la communication dut s'établir, car Sarès demanda « Le 39-40, ah bien !» Il hésita. Évidemment, la présence de Coralie lui était extrêmement désagréable. Il allait dire des choses qu'elle n'aurait pas dû connaître. Mais l'heure pressait sans doute. Il prit son parti brusquement et prononça en anglais les deux récepteurs collés aux oreilles. « C'est toi, Grégoire ? Ah, c'est moi, Sarès. Allô, oui, je téléphone de la rue Renoir. Ne perdons pas de temps, écoute. » Il s'assit et continua. « Voici, Mustapha est mort, le colonel aussi. Mais sacre, ne m'interromps pas où nous sommes fichus. »« Eh oui, fichu et toi aussi. » « Écoute, ils sont tous venus, le colonel, Bourdeff, toute la bande, ils m'ont volé par force, par menace. J'ai expédié le colonel, c'est bon, il avait écrit à la préfecture, nous dénonçant tous. La lettre arrivera bientôt, alors, tu comprends, Bourdeff et ses trois formants vont se mettre à l'abri. Le temps de passer chez eux et de ramasser leurs papiers. Bon, je calcule qu'ils seront chez toi dans 1 heure, 2 heures au plus. » C'est le refus certain. C'est eux qui l'ont préparé sans savoir que nous nous connaissions, toi et moi. Donc pas d'erreur possible, ils vont venir. Et Sarès se tut, et après avoir réfléchi, il poursuivit. T'as toujours une double clé de chacune des pièces qui toutes se serviront de chambre. Oui, eh bien, bon, et toi aussi un double, les clés qui ouvrent les placards de ces pièces. Oui, parfait. « Eh bien, dès qu'ils dormiront, ou plutôt que dès qu'ils rassurent qu'ils dorment profondément, pénètre chez eux et fouille les placards. Il est inévitable que chacun d'eux y cachera sa part de butin. Tu la trouveras facilement, ce sont les 4 portefeuilles que tu connais. Mets-les dans ton sac de voyage et décampe au plus vite et rejoins-moi. » Une nouvelle pause, cette fois Sarès écoutait. Il reprit. Qu'est-ce que tu dis, rue Renoir, ici ? Me rejoindre ici ? Oh, mais tu es fou ! T'imagines-tu que je puisse rester maintenant, après la dénonciation du colonel ? Non, Va m'attendre à l'hôtel près de la gare. J'y serai vers midi ou 1 heure, peut-être plus tard. T'inquiète pas, déjeune tranquillement et nous aviserons. Allô, c'est compris? En ce cas, je réponds de tout. Allez, à tantôt. La communication était terminée et l'on eût pu croire que toutes ces mesures prises pour entrer en possession des 4 millions, Sarès n'avait plus aucun sujet d'inquiétude. Il raccrocha les récepteurs, gagna le fauteuil où il avait subi la torture, tourna le dossier du côté du feu, s'assit, rabattit sur ses pieds le bas de son pantalon, en mit ses chaussettes et enfila ses chaussons, tout cela péniblement et non sans quelques grimaces de douleur, mais calmement, et comme un homme qui n'a pas besoin de se presser. Coralie ne le quittait pas des yeux. « Je devrais partir, » pensa le capitaine Belval, un peu gêné à l'idée de surprendre les paroles qu'échangeraient le mari et la femme. Il resta cependant. Il avait peur pour maman Coralie. Ce fut Essarès qui engagea l'attaque. « Eh bien, » fit-il, « qu'est-ce que tu as à me regarder ainsi ?» Elle murmura, contenant sa révolte. « Alors, c'est vrai, je n'ai pas le droit de douter. » Il ricana. « Pourquoi mentirais-je? J'aurais pas téléphoné devant toi si je n'avais pas été sûr que tu étais là, avant, dès le début. » « Oui, j'étais là-haut. Donc tu as tout entendu? Oui, et tu as tout vu? Oui. » Et voyant le supplice qu'on m'inflige et entendant mes cris, t'as rien fait pour me défendre contre la torture, contre la mort. Mais rien, puisque je savais la vérité. Quelle vérité? Celle que je soupçonnais, sans oser l'admettre. « Mais quelle vérité ? » répéta-t-il plus fortement. « Mais la vérité sur votre trahison ? Tu es folle, je ne trahis pas. Oh, ne jouez pas sur les mots. En effet, une partie de cette vérité m'échappe. Je n'ai pas compris tout ce que ces hommes ont dit et ce qu'ils réclamaient de vous, mais ce secret qu'ils voulaient vous arracher, c'est un secret de trahison ? » Il haussa les épaules. « On ne trahit que son pays, je ne suis pas français. »« Mais vous êtes français, » s'écria-t-elle. « Vous avez demandé à l'être et vous l'avez obtenu. Vous m'avez épousé en France, et c'est en France que vous habitez et que vous avez fait fortune. C'est donc la France que vous trahissez. »« Allons donc, et au profit de qui ?» « Ah bien, voilà ce que je ne comprends pas non plus. Depuis des mois, depuis des années même, le colonel, Bourneuf, tous vos anciens complices et vous, vous avez accompli une œuvre énorme, oui énorme, ce sont eux qui l'ont dit. Et maintenant il semble que vous vous disputez les bénéfices de l'entreprise commune et les autres vous accusent de les empocher, ces bénéfices, à vous tout seul et de garder un secret qui ne vous appartient pas. » En sorte que j'entrevois une chose plus malpropre peut-être et plus abominable que la trahison. Je ne sais quelle besogne de voleurs et de bandits. Assez ! L'homme frappait du poing sur le bras du fauteuil. Coralie ne parut pas s'effrayer. Elle prononça. Assez, assez, oui, vous avez raison. Assez de mots entre nous. Derrière un fait qui domine tout, votre fuite. C'est l'aveu. La police vous fait peur. » Il haussa de nouveau les épaules. « Bon, je n'ai peur de rien. »« Soit, mais vous partez. »« Oui. » »« Alors, finissons-en. À quelle heure partez-vous ? » ?»« Tantôt vers midi. » »« Et si l'on vous arrête ? » ?»« On ne m'arrêtera pas. » »« Et si l'on vous arrête, cependant ? » ?»« On me relâchera. » Mais tout au moins, on fera une enquête, un procès. Non, non, l'affaire sera étouffée. Vous l'espérez, j'en suis sûr. Dieu vous entende. Et vous quittez la France, sans doute. Bon, dès que je le pourrai. C'est-à-dire au long de 2 ou 3 semaines. Prévenez-moi ce jour-là, pour que je respire enfin. Je te préviendrai, Coralie, mais pour une autre raison. Laquelle ? Pour que tu puisses me rejoindre. Vous rejoindre ? Il sourit méchamment. Mais tu es ma femme, la femme doit suivre son mari, et tu sais même que dans ma religion, le mari a tous les droits sur sa femme, même le droit de mort. Or, tu es ma femme. Coralie secoua la tête et d'un ton de mépris indicible. Je ne suis pas votre femme. Je n'ai pour vous que de la haine et de l'horreur. Je ne veux plus vous voir, et quoi qu'il arrive, quelles que soient vos menaces, je ne vous verrai plus. Il se leva et, marchant vers elle, courbé en deux, tout tremblant sur ses jambes, il articula les poings serrés de nouveau. « Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu oses dire ? Moi, le maître, je t'ordonne de me rejoindre au premier appel. Je ne vous rejoindrai pas, je le jure devant Dieu, je le jure sur mon salut éternel. » Il trépigna de rage, sa figure devint atroce et il vociféra. « Ah, c'est que tu veux rester alors ? Oui, oh, tu as des raisons que j'ignore, mais qu'il est facile de deviner. Des raisons de cœur, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose dans ta vie, sans doute. Tais-toi, tais-toi. Est-ce que tu ne m'as pas toujours détesté ? Oh, ta haine n'est pas d'aujourd'hui. Elle date de la première minute, d'avant même notre mariage. » Nous avons toujours vécu comme des ennemis mortels. Moi, je t'aimais, moi, je t'adorais. Un mot de toi, je serais tombé à tes pieds. Le bruit seul de tes pas me remue jusqu'au cœur. Mais toi, c'est de l'horreur que tu éprouves, et tu t'imagines que tu vas refaire ta vie sans moi, mais j'aimerais mieux te tuer, ma petite. » Ses doigts s'étaient resserrés, et ses mains ouvertes palpitaient à droite et à gauche de Coralie, tout près de sa tête, comme autour d'une proie qu'elle semblait sur le point d'écraser. Un frisson nerveux faisait claquer sa mâchoire, des gouttes de sueur luisaient le long de son crâne. En face de lui, Coralie, frêle et petite, demeurait impassible. Patrice Belval, que l'angoisse étreignait et qui se préparait à l'action, ne pouvait lire sur son calme visage que du dédain et de l'aversion. À la fin, Essarès, parvenant à se dominer, prononça « Tu me rejoindras, Coralie. Que tu le veuilles ou non, je suis ton mari. Tu l'as bien senti tout à l'heure, quand la volonté du meurtre t'a armé contre moi et que t'as pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de ton dessein. Il en sera toujours ainsi. Ta révolte s'apaisera et tu rejoindras celui qui est ton maître. » Elle répondit, « Je resterai, oui, pour lutter contre toi, ici, dans cette maison même. L'œuvre de trahison que tu as accomplie, je la détruirai. Je ferai cela sans haine, car je n'ai plus de haine, mais je le ferai sans répit pour réparer le mal. » Et il dit tout bas, « Moi, j'ai de la haine. Prends garde à toi, Coralie. Le moment même où tu croiras n'avoir plus rien à craindre sera peut-être celui où je te demanderai des comptes. Prends garde !» Il pressa le bouton d'une sonnette électrique. Le vieux Sibéon ne tarda pas à entrer. Il lui dit « Alors, les deux domestiques se sont esquivés ?» Et sans attendre la réponse, il reprit « Bon voyage, la femme de chambre et la cuisinière suffiront pour assurer le service. Elle aurait entendu, elle, non, n'est-ce pas ? Elle couche trop loin. N'importe Sibéon, et tu les surveilleras après mon départ. » Il observa sa femme, étonné qu'elle ne s'en alla pas, et il dit à son secrétaire, « Oh, il faut que tu sois debout à 6 heures pour tout préparer. Je suis mort de fatigue. Conduis-moi jusqu'à ma chambre, ensuite tu reviendras éteindre. » Il sortit avec l'aide de Siméon. Aussitôt, Patrice Belval comprit que Coralie n'avait pas voulu son faiblir devant son mari, mais qu'elle était à bout d'énergie et incapable de marcher. prise de défaillance, elle tomba à genoux en faisant le signe de la croix. Quand elle put se relever, quelques minutes plus tard, elle avisa sur le tapis entre elle et la porte une feuille de papier à lettres où son nom était inscrit. Elle ramassa et lut « Maman Coralie, la lutte est au-dessus de vos forces. Pourquoi ne pas faire appel à mon amitié ? Un geste et je suis près de vous. » Elle chancela, étourdie par la découverte inexplicable de cette lettre et troublée par l'audace de Patrice. Mais, rassemblant dans un effort suprême tout ce qui lui restait de volonté, elle sortit à son tour, sans avoir fait le geste que Patrice implorait.